Le journal, bonjour Soizigbourg.
Bonjour Eric, bonjour à tous. L'obscurantisme ne gagnera pas. Emmanuel Macron très ferme hier après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Un professeur d'histoire-géographie décapité à côté de son collège. On revient sur ce qu'il s'est passé dans un instant. Hôteliers, recherche touristes, désespérément les carnets de commandes des professionnels du secteur sont vides alors que les vacances de la Toussaint ont débuté hier soir. Dans ce journal, au Liban, la crise pousse les médecins à s'exiler. Et puis Eric, si je vous dis plombier moustachu, princesse Peach et peau de banane, vous me dites ?
Ah, j'y ai joué, Mario Kart.
Exactement, et bien la rédaction web de France Inter a testé le tout dernier jeu qui mêle jeux vidéo et réalité virtuelle.
Les invités de la matinale à propos de l'obscurantisme, nous en parlerons à 8h20 avec Hugo Micheron. Il est auteur du livre Le djihadisme français, quartier, Syrie, prison aux éditions Gallimard. Et puis à 8h30, nous serons avec Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, qui était hier auprès aux côtés du chef de l'État à Conflans-Sainte-Honorine.
France Inter. La terreur donc à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Hier, un professeur d'histoire-géographie de 47 ans décapité par un jeune homme de 18 ans qui a ensuite été abattu par la police. Un attentat islamiste caractérisé selon Emmanuel Macron. Le chef de l'État était sur place dans la soirée à la fois ému et tendu. Il a appelé les Français à combattre le terrorisme.
Tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. C'est ce qu'ils cherchent. Et nous devons nous tenir tous ensemble, citoyennes et citoyens. Et j'appelle l'ensemble de nos compatriotes, dans ce moment, à faire bloc, à être unis, sans aucune distinction quelle qu'elle soit. Car nous sommes d'abord et avant tout des citoyens unis par des mêmes valeurs, une histoire, un destin. Cette unité est indispensable. Les actes sont là et seront là. Avec fermeté, rapide. Vous pouvez compter sur ma détermination et celle du gouvernement.
Emmanuel Macron, hier soir devant le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, l'enquête débute. Le parquet antiterroriste est saisi. Des perquisitions ont eu lieu hier soir chez plusieurs personnes de l'entourage du tueur. Emmanuel Leclerc, que sait-on exactement de cette attaque ce matin ?
C'est la police municipale de Conflans-Sainte-Honorine qui a découvert le corps sans vie et mutilé du professeur d'histoire, non loin de son collège. Ils appellent aussitôt la BAC. Un équipage de la brigade anticriminalité aperçoit très vite le suspect. Il est jeune, il a un couteau dans une main et dans l'autre, ce qui ressemble à une arme à feu, en fait à un fusil airsoft à air comprimé qui tire des billes. Il refuse de les poser, commence à s'avancer selon plusieurs témoins qui ont assisté à la scène. Il crie « Allahu Akbar ». Il tire, les policiers ouvrent alors le feu à 10 reprises. Une carte d'identité est retrouvée. L'auteur du meurtre du professeur, qui vient d'être abattu par les policiers, réside sur la commune d'Erani, sur Oise. Il est né en 2002 à Moscou, une famille d'origine tchétchène. C'est là que les policiers ont débarqué hier soir, plusieurs perquisitions chez des proches. L'enquête commence pour savoir comment ce jeune homme en est arrivé à se transformer en terroriste, s'il a agi seul ou s'il a été influencé par ses proches ou en relation avec un groupe terroriste connu.
Personnes sont actuellement en garde à vue, dont un mineur, des proches de l'assaillant. Il serait passé à l'acte parce que l'enseignant a montré des caricatures du prophète Mahomet dans sa classe il y a quelques jours.
Et justement, cette attaque intervient en plein pendant le procès des attentats de 2015 qui avaient visé Charlie Hebdo.
Et ça fait évidemment ressurgir le débat sur la liberté d'expression. Pour l'ancien directeur du journal satirique Philippe Val, en montrant ses dessins, eh bien l'enseignant a fait son devoir.
C'est vraiment le cœur de notre République, l'enseignement. La grande révolution de la démocratie, c'était l'enseignement laïque, obligatoire, gratuit, pour tous. On a touché à ça, c'est notre trésor. Cet enseignant a fait son travail, d'autant plus que les caricatures qui ont mis le feu à l'époque dans les pays arabes étaient des fausses caricatures. C'est pas celles qu'a publié Charlie Hebdo. Ça a été d'abord des fake news. Ça a commencé comme ça, cette histoire. C'est pour ça qu'en montrant ces caricatures, il a fait son devoir. C'est ce qu'a fait Riss après, quand il a republié les caricatures récemment, en disant tout ça pour ça. Le type qui a commis ce crime, il avait 5 ans à l'époque des caricatures. C'est-à-dire qu'il a été élevé dans la haine pour faire un acte pareil pendant tant d'années. Et on voit pas, on n'a pas vu toutes ces choses-là. Je pense que ces caricatures, aujourd'hui, il faudrait que tout le monde les publie. Je pense que ça a assez duré. Il faut que tout le monde les publie, ces caricatures.
L'ancien directeur de Charlie Hebdo, Philippe Val, Charlie Hebdo, qui a exprimé sur Twitter son sentiment d'horreur et de révolte. Le député La France Insoumise, Éric Coquerel, appelle lui à un rassemblement du peuple des croyants comme des non-croyants, comme ça avait été le cas justement après l'attentat de Charlie en 2015. Sous le choc aussi, le monde enseignant, beaucoup d'effroi et d'émotion, toute la communauté éducative profondément bouleversée. Une cellule d'information a été ouverte par l'Académie de Versailles pour les élèves, le personnel et les parents d'élèves. Les syndicats de professeurs et de parents d'élèves seront eux reçus dans une heure maintenant par Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale.
L'actualité aujourd'hui, c'est aussi la mise en place du couvre-feu.
Et oui, tout le monde chez soi à 21h ce soir et pas question de sortir où il vous en coûtera 135€ d'amende. La bonne vieille attestation, celle du confinement, fait son grand retour si on doit aller travailler, promener son chien ou bien rendre visite à un proche malade en dehors de ses horaires. 20 millions de Français sont concernés dans 9 métropoles, dont toute l'Île-de-France. Couvre-feu qui tombe donc en même temps que les vacances de la Toussaint et Covid et congé eh bien, ne font pas forcément bon ménage si les stations balnéaires sont sur les dents et anticipent l'afflux de touristes en prenant de nouvelles mesures. Port du masque obligatoire sur tout le littoral de Vendée, couvre-feu au Touquet dans le Nord. Et eh bien, dans le Calvados, à Bayeux, au contraire, eh bien, on attend les clients presque désespérément, Hugo Charpentier.
Oui, je me suis rendu dans un hôtel du centre historique de la ville.
Bonjour monsieur.
Et ce qui m'a marqué, eh bien, c'est le silence, le téléphone qui ne sonne pas, le carnet de réservation désespérément vide, ou presque.
Oui exactement, j'étais en train de regarder.
Cédric Lécuyer, le gérant.
Sur ce week-end, on a 5 chambres de réservées pour l'instant sur 30.
Mais Cédric y croit, il le sait, en raison de la situation si particulière, les vacanciers désormais préfèrent se décider du jour au lendemain.
Les gens attendent forcément la dernière minute pour réserver, ça c'est une évidence. On voit ça depuis l'été, de toute façon on avait beaucoup de réservations en avance, maintenant c'est beaucoup de dernières minutes.
Vous espérez un déclic là dans les prochaines heures, j'imagine.
Ce serait bien, oui, qu'il y ait un déclic dans les prochaines heures. On va voir ce qui va se passer, tout simplement.
Lui aussi croise les doigts. Cyril, propriétaire d'une boutique de souvenirs à deux pas de la cathédrale.
Voilà, on espère que les 15 jours des vacances vont être positives. Puis la deuxième session Covid, on a quand même nettement moins de monde et c'est très très calme.
En 15 jours, est-ce qu'on peut rattraper toute une arrière-saison ?
Non, on ne va pas la rattraper, mais ça remet toujours un peu de baume au cœur de revoir un peu de monde dans les rues, un peu de monde dans sa boutique. Les journées passent plus vite et puis voilà, ça fait du bien avant la période creuse hivernale.
À Bayeux, tout est prêt, tout est ouvert pour accueillir les touristes qui ne devraient plus tarder.
On l'espère en tout cas. Reportage à Bayeux dans le Calvados d'Hugo Charpentier de France Bleu Basse Normandie. Les indicateurs sanitaires en tout cas sont dans le rouge, encore un peu plus. Aujourd'hui, 25 000 nouveaux cas positifs et 122 morts en 24 heures. 1800 patients en réanimation et plus de 10 000 malades hospitalisés. La France serre la vis et l'Europe aussi. À partir d'aujourd'hui, interdiction de socialiser à Londres. La Pologne, elle, ferme ses écoles et la Belgique, ses bars et ses restaurants pour au moins un mois.
À l'étranger, le Liban commémore le premier anniversaire de la révolte populaire qui avait secoué le pays en octobre 2019.
Mais des milliers de Libanais dans la rue, on s'en rappelle, pour demander le départ de leur classe politique. Alors un an plus tard, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Les élites du pouvoir sont toujours en place, le pays n'a pas de gouvernement et la crise s'est aggravée avec l'explosion du port de Beyrouth début août. Alors Aurélien Colli, parfois la seule porte de sortie pour les habitants, c'est l'exode, et en particulier dans le secteur médical.
Les infirmières, ça avait déjà débuté. Pour les médecins, on a vu le départ après l'explosion du port.
Le constat est amer pour le docteur Georges Dabar, directeur de l'Hôtel Dieu, l'un des établissements les plus réputés du Liban. Un à un, ses confrères quittent le pays, près de 10% déjà en quelques semaines, alors que le Liban était considéré comme l'hôpital du Moyen-Orient pour l'excellence de son secteur médical.
Le Liban est un des pays qui avait le plus grand nombre de médecins par habitant. Donc sur ces 4 500, quand on voit qu'il y a déjà 300 départs en un mois et demi, ça nous effraie. Et ça, c'est un symptôme de combien le pays est malade.
Une crise économique sans précédent, puis une révolution qui n'est pas venue à bout d'une classe politique qui a mis le pays en faillite par la corruption et le clientélisme. Ensuite, la crise du Covid et finalement l'explosion du 4 août dans le port de Beyrouth. En 12 mois, le Liban a changé de visage et cela fait fuir aussi les jeunes médecins en formation. La docteur Eliane Ayoub gère les internes de l'Hôtel Dieu.
Cette année, c'est la première année où on a 30 démissions. Et c'est malheureux parce qu'ils partent vers la France, les États-Unis, ils ne reviennent plus, ces gens-là. Même nous, on est désespérés, si vous voulez. Mais d'un autre côté, on se dit, si tout le monde part, le Liban tombera.
Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
L'escalade continue entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le conflit qui les oppose au Haut-Karabakh. Un missile a touché une zone résidentielle de Ganja. la deuxième ville d'Azerbaïdjan. 12 personnes sont mortes. Les combats ont pour l'instant fait 700 morts depuis septembre.
Un plombier moustachu habillé en rouge et en bleu, eh bien, ça nous parle.
Ah oui, ça nous parle. En tout cas, moi, ça me parle. Vous aussi, j'imagine. Oui. On a testé pour vous le nouveau Mario Kart qui a la particularité, celui-là, d'être en réalité augmentée. Alors, sa promesse, c'est de transformer votre salon en fait en piste de course. Rien que ça, grâce à une voiture télécommandée équipée d'une caméra qui fait apparaître les images sur l'écran de votre console. Alors, Julien Baldacchino, expliquez-nous comment ça marche.
La première étape inhabituelle pour un jeu vidéo, c'est de faire un peu de travaux manuels, connecter le kart télécommandé à votre console et disposer des balises en carton dans votre salon pour tracer le circuit qui servira de terrain de jeu. Une fois la course démarrée, on retrouve les fondamentaux des jeux Mario Kart avec leurs bonus en forme de banane ou de carapace. Le kart, lui, est doté d'une caméra qui fait apparaître votre environnement sur l'écran de la console, le tracé du parcours et les ennemis apparaissent, eux, en surimpression. Le concept de réalité augmentée marche très bien, l'impression de vitesse est là, et même si la voiture téléguidée répond bien aux commandes, les courses sont moins faciles qu'il n'y paraît quand il s'agit de slalomer entre les pieds d'une table. Le concept est audacieux sur le papier, il fonctionne en pratique, reste une interrogation quant à la durée de vie du jeu, car à moins de changer à la main les balises de place entre chaque course, vous serez peu ou prou toujours sur le même circuit au milieu de votre salon. Pour autant, le fun promis par le jeu est bien là, au moins pour quelques heures.
Julien Baldacchino, et vous pouvez voir le jeu vidéo en action sur franceinter.fr parce qu'on l'a testé, figurez-vous, dans les studios de France Inter.
Et on ira voir ça avec plaisir.